Je vais juste très rapidement me présenter pour que vous sachiez un petit peu de quelle expérience je parle aujourd'hui. Donc moi, j'ai commencé à travailler 13 ans à l'administration pénitentiaire et en 2001, je suis rentrée à la PJJ. Donc voilà, ça c'est une pratique qui moi m'a toujours fortement motivée, qui m'a apporté beaucoup de plaisir, même si enfin qui m'en apporte toujours d'ailleurs, même si bon, c'est pas toujours sans difficulté. Voilà, moi ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est plutôt un retour d'expérience quand j'ai travaillé à l'EPM de mes yeux, hein, pour vous resituer rapidement mon parcours. Moi j'ai commencé à travailler en foyer, dans un CPI, hein, à l'époque, ça s'appelait des CPI. Ensuite, j'ai travaillé en milieu ouvert. Ensuite, j'ai travaillé donc à l'EPM de mes yeux. Et maintenant, aujourd'hui, je suis en milieu ouvert à La Réunion. Voilà. Donc, c'est vrai que quand les EPM ont ouvert, moi, ça m'a intéressé, même si c'était pas forcément simple de postuler pour un poste à l'EPM, puisqu'à l'époque, il y avait quand même des interrogations, des doutes sur ces établissements qui ouvraient. Et bon, ce que moi je tiens à dire, c'est que c'est pas parce que j'ai postulé à l'EPM que je cautionnais l'incarcération des mineurs. C'est pas du tout le cas, hein, voilà. Moi, j'étais intéressée et peut-être moins. J'avais peut-être moins d'appréhension justement parce que j'avais déjà un passé à l'administration pénitentiaire et 8 ans en milieu carcéral. Voilà. Donc là, c'est juste un petit retour d'expérience. Hein. Je vais essayer de développer un peu ce que j'ai essayé de mettre en place. Enfin, une partie parce que en une heure, ça serait vraiment en cours. Donc, quelques idées de ce que j'ai essayé de mettre en place, des réflexions que ça m'a inspiré, et je vais présenter aussi quelques modalités pratiques qui forcément découlent de la façon dont je voyais mon travail et de ce que j'essayais en réalité de mettre en place avec les adolescents. Voilà. Alors, je suis désolée, il y a des moments où je vais parler, mais des moments où je vais être obligée de lire un petit peu parce que j'ai écrit et j'ai pas quand même l'habitude, je possède pas assez mon texte pour pouvoir vous le lire sans jamais regarder. Donc, voilà, quand je suis arrivée, moi, à l'EPM, donc c'était vraiment l'ouverture, il y avait eu quelques mois, mais c'était des mois finalement sans détenue, donc ça marchait bien finalement à l'époque. Quand je suis arrivée, ça démarrait vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je me disais, voilà, une des raisons pour lesquelles j'ai postulé, c'est que partout où il y a de l'humain, il y a une vie psychique et il y a une place pour un psychologue. Ça, c'est vraiment, moi, un de mes postulats de départ et qui a fait que j'ai postulé pour l'EPM en me disant, où sont ces adolescents? Il faut essayer d'aller les rencontrer et leur donner un espace de parole et de pensée. Voilà, ça c'était vraiment mon fondement de départ. Sachant que, voilà, hein, donc pour moi, les adolescents, quand ils sont incarcérés, ils sont encore plus vulnérables. Ça c'est vraiment important. Pourquoi ils sont moins vulnérables? Parce qu'ils peuvent moins facilement recourir aux modalités, aux moyens défensifs auxquels ils recourent pour éviter la confrontation à la souffrance psychique, parce qu'ils connaissent un échec supplémentaire dans leur vie, hein, puisqu'ils avaient essayé de trouver des aménagements par la délinquance pour compenser leur souffrance narcissique. Pour moi, en effet, c'est une de mes hypothèses parfois, dans la délinquance, ils arrivent à une certaine forme de restauration narcissique. Et donc là, ça tombe à l'eau, hein, s'ils sont à nouveau en échec, un échec supplémentaire par rapport à tous ceux qu'ils ont déjà connus. La séparation de la famille, la honte, la culpabilité parfois, et puis toutes les raisons que nous avons entendues hier. Hein, donc pour moi, les adolescents en prison, ils sont encore plus en difficulté, et il me semblait vraiment important de pouvoir aller les aider. Alors, moi, je n'ai pas du tout, enfin, j'ai pas exactement les mêmes chiffres qu'hier, mais je suis aussi formatrice en prévention du suicide. Donc, le suicide, c'est la deuxième cause des décès des 15-24 ans, hein, tout le monde le sait. Et en fait, on sait que ça serait certainement la première cause si on un certain nombre d'accidents qui sont classés en accidents, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit des suicides, mais en vérité, qui sont quand même presque des équivalents suicidaires. Hein. Donc, en fait, voilà, c'est quand même une vulnérabilité à ce niveau-là. Et de façon générale, l'incarcération multiplie par 7 le risque carcéral. Alors, hier, on a entendu de 4 à 18 pour les mineurs, hein, mais de toute manière, pour la population carcérale en général, on multiplie par 7 le risque. Donc, on sait quand même qu'il y a une vulnérabilité accrue en détention. Alors, la difficulté aussi que j'avais, hein, c'est que quand je suis arrivée, le service médical, hein, le SMPR, m'avait dit... on veut pas de vous chez nous. Hein. Enfin, ils avaient juste avant moi, il y avait une contractuelle qui était restée un temps très très court et qu'ils avaient accueilli dans leur service. Et ils se sont rendus compte que c'était pas adéquat puisque c'était une autre institution et voilà. Donc moi, dès que je suis arrivée, ils m'ont dit vous faites votre place ailleurs, mais on vous veut pas chez nous. En gros, ce que moi je comprenais très bien. Hein. En réalité, je comprenais très bien puisque moi je suis PJJ, ministère de la Justice. On ne fait pas partie de la même institution et pour moi, on n'a pas exactement les mêmes missions. Donc, je comprenais. Bon, bah, c'était une des données de base. Les relations avec le service de soins n'ont pas toujours été archi simples, justement, parce que des fois, on empiète un peu sur les mêmes domaines et ce n'est pas toujours simple de bien définir la place de chacun. Et puis alors, moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'à la PJJ, mais ça, c'est valable aussi en milieu ouvert, on a un matériel clinique qui est énorme, qui va bien au-delà de ce que nous amène l'adolescent, et que c'est quand même pas si simple hein, de faire avec tout ce matériel clinique qui va bien au-delà de la vérité du sujet, de sa réalité subjective. Je trouve que c'est compliqué parce que ça vient de tous côtés, des dossiers judiciaires, des éducateurs, des parents, et on se retrouve avec une somme d'éléments on est bien obligé de prendre en compte et qu'il n'est pas toujours évident de croiser avec ce que le jeune nous amène lui-même. Enfin, ça, je trouve que ça mériterait une vraie réflexion. Tout ce matériel clinique qui nous vient de partout et qu'il va bien falloir quand même tricoter avec ce que le jeune nous amène. Voilà. Donc, c'était quand même un petit peu, un peu compliqué. Donc, en fait, je me suis dit, il va falloir composer avec tous ces métacadres, ministère de la Justice, administration pénitentiaire, PJJ, EPM, métier de psychologue, comment tout ça, il faut composer, emboîter, articuler. Donc, ça, vraiment, c'était vraiment quand même un vrai champ de réflexion pour moi. Hein. En même temps, le fait qu'on démarrait, moi, je crois que j'ai bénéficié d'une immense liberté parce que quand je suis arrivée et que j'ai demandé à ma directrice et aux rues qu'est-ce que je fais, ils m'ont dit « Alors, tu te débrouilles, on a tellement de choses, nous, à gérer. Vraiment, ce que tu vas faire, c'est pas, pour nous, c'est pas d'actualité. Tu fais comme tu peux. » En gros, c'était ça. Mais en fait, ça a été une grande chance pour moi parce que j'ai pu vraiment développer la place... un peu que je voulais, bien sûr, j'en référais, mais ça a été quand même une grande chance pour moi, je trouve, finalement. Bon, après, j'ai bénéficié du coup d'une grande confiance aussi, hein. Les pensées qui m'ont guidée à ce moment-là de ma carrière, hein, c'était de finalement revenir des fondamentaux, la finalité du travail du psychologue, qui est dans un établissement pénitentiaire finalement comme ailleurs, d'amener les adolescents à accéder à une position de sujet. Hein, moi, c'est vraiment le guide de toute ma carrière, comment les amener à pouvoir accéder à une position de sujet qu'eux-mêmes, pour de multiples raisons, n'ont pas réussi à construire et que leur entourage, pour d'autres raisons encore, ne leur ont pas non plus permis de mettre en place. Autrement dit, donc pour moi, c'était d'essayer de travailler à une mise en sens de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vécu, d'essayer d'engager un travail de subjectivation, et notamment la subjectivation de la souffrance. Là, je fais référence à Denis Mellier, hein, qui a écrit là-dessus. Voilà, donc moi, je m'étais dit, ben, c'est pas un lieu de soins exactement, hein, mes entretiens, l'espace clinique que je vais développer, c'est pas exactement un lieu de soins. C'est un espace où je vais essayer de prendre soin des adolescents, de leur apprendre surtout à prendre soin d'eux-mêmes, et plus particulièrement de leur vie psychique, qui est bien souvent déniée, rejetée, redoutée, puisqu'elle est porteuse d'une souffrance supérieure à ce que leur équipement psychique leur permet d'affronter, au moins dans un premier temps. Mais là aussi, hein, je retrouve des fondamentaux du travail du psychologue à la PJJ, pas seulement en détention. Alors, ce que j'ai remarqué, hein, mais comme tous les collègues qui ont cette pratique, c'est que les adolescents sont très réceptifs en détention, sont très réceptifs aux rencontres et à ce qui peut naître de cette rencontre, le lien, l'approche du sens de leur parcours et du sens des actes qui les ont conduits en prison. Ils sont en effet plus disponibles, on l'a dit hier, à ce qui se passe dans leur corps, mais également dans leur vie psychique. Déjà du fait que la souffrance est quand même particulièrement présente, qu'il y a moins de moyens de fuite ou d'évitement, donc il y a moins de produits psychotoxiques. Enfin, en tout cas, moi, quand j'y étais, il y en avait beaucoup moins qu'à l'extérieur. Je crois que ça a un peu évolué, surtout à Lyon, d'après ce que j'ai entendu. Et que quand même, l'agir par lequel, finalement, ils traitent leur souffrance psychique en déchargeant la souffrance, en déchargeant une tension interne, quand même, l'agir est plus limité, hein, puisqu'ils sont très vite arrêtés lorsqu'ils essaient d'en passer par l'agir. Hein. Donc souvent, ben, ils sont plus confrontés à leurs pensées, à ce qui finalement émane d'eux-mêmes. Et je me disais qu'ils avaient vraiment besoin d'un étayage, hein, puisque pour moi, s'ils sont passés à l'acte, s'ils ont utilisé le recours à l'agir pour extérioriser une souffrance psychique, c'est qu'ils n'ont pas pu faire autrement, ils n'ont pas pu traiter cette souffrance psychique autrement, en tout cas par la mentalisation. Voilà. Alors, une autre donnée du problème, mais là aussi, hein, je dirais que c'est un petit peu la même chose en milieu ouvert ou dans d'autres espaces du travail du psychologue en PJJ, c'est pour moi l'impossible demande de l'adolescent qui donc recourt à l'agir par une impossibilité maturative à continuer de dépendre d'autrui. Non, pardon, je me suis trompée. L'impossible demande de l'adolescent, qui recourt à l'agir, hein, puisque en fait l'adolescent, du fait de son impossibilité maturative de continuer à dépendre d'autrui, et singulièrement de l'adulte, n'est pas en capacité d'être porteur d'une demande. Voilà, ça c'est pour moi. Dès que je suis rentrée à la PJJ, mais je l'avais un peu déjà appréhendé avec les adultes. Hein, la demande, ça faisait longtemps que moi j'avais abandonné l'idée d'une demande et d'attendre une demande. Pour moi, c'était un peu les abandonner que d'attendre une demande. Voilà. Alors, ce que je pourrais développer là-dessus, c'est que pour un adolescent qui est en insécurité, qui se sent en échec, qui se sent insuffisant et pour lequel l'objet apparaît plus menaçant parce qu'il est encore plus espéré et attendu, accepté de l'autre, c'est donc encore plus dangereux pour l'intégrité de son moi. En effet, pour moi, plus l'adolescent est en difficulté, plus il est dans une forme d'insécurité interne, plus il a une mauvaise image de lui-même, plus il souffre d'un manque de confiance en ses ressources propres internes, plus il devient dépendant de son environnement, ou il reste dépendant de son environnement, c'est-à-dire dépendant de la capacité de l'autre, de l'entourage, à lui apporter la sécurité interne qu'il n'a pu construire lui-même. Si vous voulez, je vous le donnerai, mon PowerPoint, hein, si ça peut vous éviter d'écrire, moi ça ne me gêne pas. Hein. Mais cette dépendance même rend ce dont il a besoin menaçant pour son économie psychique, à savoir son autonomie et à tout le moins son besoin d'autonomisation. Cet adolescent se trouve donc devant le paradoxe hein, d'avoir besoin de ce qu'il redoute, ce qui menace son nécessaire besoin d'autonomie. Alors plus simplement, on peut dire plus simplement, finalement, plus l'adolescent a besoin d'aide, plus il a aussi besoin de rejeter la proposition d'aide. C'est vraiment des choses moi, qui m'ont traversée, que j'ai constatées partout avec nos jeunes. Voilà, donc comment j'ai essayé de situer ma pratique entre une démarche justement d'aller vers. Hein, moi, ça m'a beaucoup aidé de conceptualiser cette démarche d'aller vers. Hein, et puis, finalement, éluder la question du consentement, faire voilà comme si elle n'existait pas. Donc, dans les fondements de l'aller vers, hein, c'était vraiment, bah, comme je l'ai dit, ne pas attendre une demande, qui pour moi ne peut pas être élaborée par les adolescents, puisque précisément, pour moi, leur passage à l'acte sont une forme de demande hein, qui n'a pu s'exprimer, s'élaborer autrement. C'est aller à la rencontre du public. Ce qui signifiait, par exemple, en détention, être présent tous les jours, qui me voit tout le temps, à droite, à gauche, pas seulement dans mon bureau, hein, dans beaucoup de lieux, dans beaucoup d'espaces, donc être visible, se faire connaître, essayer de construire progressivement une relation de confiance, respecter la temporalité, hein, bien sûr, et le rythme de chacun, rester dans une proximité, dans l'attente, la disponibilité, se saisir des interpellations fugaces et quelle que soit leur forme, hein, qui parfois c'est assez agressif, mais pour moi c'est quand même une forme de demande hein, quand ils nous insultent ou qu'ils nous disent qu'on sert à rien ou voilà, on connaît, hein, voilà. Mais pour moi c'est quand même une façon de nous interpeller, mais aussi de travailler avec l'institution, hein, donc les collègues, le personnel de surveillance, les enseignants. Pour moi, cette idée d'un partage collectif, d'un portage collectif, c'est pour moi des enveloppes psychiques successives et comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Alors donc, moi, je situais mon travail entre la sollicitation, aller les chercher, la proposition de rencontre. L'accueil d'un refus aussi, qui est parfois le seul lieu de leur subjectivité. Quand il y avait refus, ben je l'acceptais quand même comme une prise de parole, une prise de position, une étape dans un processus. Voilà, et encore une fois, hein, entendre et prendre en compte ce refus, pour moi, c'est une façon de protéger l'adolescent de la prise de conscience trop brutale de ses besoins et de sa dépendance encore partiellement persistante envers l'adulte, envers le professionnel. Donc pour moi, l'aller vers, c'est aller chercher l'adolescent, l'accompagner à venir à nous, afin qu'il passe du non-consentement au consentement, d'une non-adhésion à une adhésion. Voilà. Donc encore une fois, hein, mais dit autrement, ne pas leur demander leur accord repose sur l'idée que consentir signifierait pour eux leur insuffisance et leur incomplétude, et par suite leurs besoins et leur dépendance vis-à-vis d'autrui. Moi je proposais donc des entretiens, même malgré plusieurs refus, non pas dans une confrontation frontale qui évoque un rapport de force, pas non plus dans une relation dominant-dominée qui impose une soumission désubjectivante qu'ils ont beaucoup connue, beaucoup trop intériorisée, mais en indiquant bien que j'entendais, que j'acceptais leur refus et tout en continuant tranquillement à proposer régulièrement des entretiens. Et je leur disais que régulièrement je reviendrais. Alors ça n'a pas toujours été facile à comprendre pour les surveillants. Parce que quand le jeune me disait 8-10 fois « Non, je veux pas la voir », les surveillants, je leur avais expliqué hein, pourquoi j'insistais, mais des fois ils disaient Vous voulez pas abandonner quand même, vous voulez pas, vous croyez vraiment? Et moi, j'étais tellement convaincue que je continuais à dire non, mais un jour ils viendront. Bon, c'était pas toujours, parce que bon, là je l'ai dit de façon soft, mais des fois ils disaient non, mais fais chier celle-là, ça fait 10 fois qu'on lui dit non. Bon, voilà, c'était pas toujours facile, mais voilà, je quand même, et je peux vous dire que. Parfois, c'était les jeunes. Hein. Je me souviens d'une scène à l'EPM. On voyait l'EPM, il parle pas beaucoup par la fenêtre et il nous interpelle. Et il y en a un jour, il me dit, à chaque fois, il dit « Non, mais c'est pas à peine de venir pour moi. » Puis un jour, il me dit « Mais vous en avez pas marre de vous prendre des râteaux ?» Voilà. Donc, je disais « Non, ça va, ça va. » Bon, voilà. Après, c'est vrai que réellement, je me sentais pas... Je me sentais pas attaquée puisque je me disais ben voilà c'est pas encore prêt voilà. Alors dans cette mouvance hein, et voilà quand on propose sans attendre le consentement, en fait on lui permet hein, c'est ce que j'ai écrit, de satisfaire un certain nombre de ses désirs et besoins sans qu'il ait à les reconnaître comme siens, mais en pensant qu'il ne fait que subir une contrainte extérieure. Alors certes, la contrainte extérieure, il peut s'opposer, mais la révolte est moins délétère que le risque d'effondrement ou, pour le contrer, certains passages à l'acte ou recours à l'acte. Voilà, pour moi, c'était vraiment ce qui fondait ma pratique. Et là, je me suis appuyée sur Philippe Jamais, hein, qui dit, je vais vous le citer, « La contrainte extérieure est toujours ressentie moins péniblement que les contraintes intérieures liées aux besoins et désirs qui représente la véritable passivité, la plus dangereuse pour l'intégrité du moi, car ce dernier ne peut se révolter totalement contre elle, comme dans le cas des contraintes externes, puisqu'il en est le complice et qu'elles font partie de lui. » Voilà, c'est ainsi que pour moi la demande elle appartient au clinicien, qui peut être pour un temps porteur des demandes, des adolescents, comme auxiliaires du moi, puisqu'encore une fois, exprimer un consentement reviendrait pour eux à reconnaître un besoin et de lui donner un besoin de l'autre, et de lui donner un pouvoir intolérable sur lui. Alors, évidemment, peu à peu, hein, il y a certains qui sont arrivés à élaborer une demande de soins, et évidemment, mais ça, vous partagez tous, hein, quand ils accèdent à cette capacité, ils ont déjà fait une bonne part du travail. Hein. À défaut et à minima, moi, je me disais que l'adolescent aurait fait l'expérience d'une rencontre avec un adulte qui se soucie de lui, lui témoigne un intérêt de façon inconditionnelle et durable, ce qui, en soi, déjà, pour moi, est une expérience thérapeutique, dans le sens, au moins, et partiellement, d'une restauration narcissique. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, moi, quand j'étais à l'EPM, j'avais fait le choix d'aller moi-même au-devant des adolescents, de proposer des entretiens à tous, et notamment à ceux qui ne parvenaient pas à solliciter les services de soins, puisque, à l'époque, je ne sais pas exactement comment c'est peut-être différent sur les établissements, mais moi, quand je travaillais à l'EPM de Mézieux, ils étaient encore le SMPR dans l'attente d'une demande. Donc, effectivement, ils voyaient certains jeunes, mais vraiment pas tous. Donc, moi, j'avais décidé que je les voyais tous. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu plus de certaines déclinaisons pratiques de mon travail. Alors, d'abord, les entretiens arrivants. Moi, j'avais décidé de voir tous les arrivants dans les 48 heures. Donc en fait, à cette époque-là, hein, je pense que c'est pareil, hein, dans l'EPM, toute incarcération d'un adolescent démarrait par une série d'entretiens, dont celui avec la psychologue PJJ. Cet entretien leur était annoncé au préalable par le surveillant et l'éducateur qui accueillait l'adolescent. Donc j'avais fait ce choix afin de faire connaissance avec eux, me présenter, de réaliser une rapide évaluation du choc carcéral qui peut avoir des moments, des relents un peu traumatiques, mais en tout cas toujours des effets de rupture, et surtout d'ouvrir un espace de parole et de pensée qui pouvait inaugurer la prise en charge ultérieure. Alors ce premier entretien, j'avais beaucoup travaillé avec les éducateurs et les surveillants en leur disant qu'il fallait pas le présenter comme obligatoire. Je leur demandais d'éviter ce mot, puisque c'est le meilleur moyen de susciter le refus chez un adolescent en but avec la question de l'autorité. Donc je leur disais, vous dites un peu ce que vous voulez, mais évitez obligatoire, dites-leur ça fait partie, voilà, c'est tout. On essayait de banaliser en disant que ça faisait partie de la procédure d'accueil. Moi, mon présupposé aussi, donc, c'était qu'il n'était pas opportun de demander à ces adolescents s'ils souhaitaient ou non rencontrer la psychologue, puisqu'ils ne savaient pas tous de quoi il s'agissait. Puis, leur représentation défensive, c'est pour les fous, les empêcher finalement d'accéder à cette proposition. Par contre, je préférais, moi, leur faire vivre d'emblée un entretien psychologique. Et leur demander ensuite s'ils souhaitaient qu'on continue à se voir, s'ils s'y étaient un peu retrouvés dans ce qu'on avait échangé. Donc en fait, je m'arrêtais pas à des présentations et on vivait directement un premier entretien, voilà. Ça aussi, je le faisais parce que je pense que ces adolescents ont un mode d'approche et de connaissance par l'expérience, par l'expérientiel, plus que par des représentations. Des explications verbales et analytiques. Et pour moi, il s'agissait pour eux qu'ils puissent se faire leur propre avis sur un entretien psychologique, sans être influencés par autrui, les éducateurs, les surveillants, les juges, les parents, les autres adolescents détenus. Je voulais qu'ils vivent et voilà, qu'ils voient ce qu'eux en pensaient. Alors, quelques éléments... du travail. Donc, moi, je leur présentais un petit peu en disant que le travail que je leur proposais, c'était de prendre soin d'eux, prendre soin de leur état psychologique dès l'arrivée et durant toute la détention, mais aussi de réfléchir aux actes qui les avaient conduits en détention. Voilà, c'était un peu les portes d'entrée. Pour moi, en tant que professionnelle de la justice, hein, cet accès par les passages à l'acte, ça me semble assez intéressant, puisque c'est, pour moi, encore une fois, c'est leur forme de demande, d'interpellation de l'autre. Là, je me situe beaucoup dans la clinique et la théorie de Winnicott, hein, la prise en main. Pour moi, c'est leur canal d'expression, de communication, de demande vis-à-vis d'autrui. Et pour moi, évidemment, la délinquance, c'est quand même une façon d'interpeller par l'attaque, par la transgression, qui est certainement moins délétère que de s'attaquer à eux-mêmes, à leurs pensées, et de s'effondrer, de décompenser. Donc, pour moi, je n'attaquais pas directement, frontalement, sur la question d'un mal-être ou d'un dysfonctionnement, tout ça. Enfin, c'était pas comme ça qu'on... Je démarrais le travail. Hein. Pour moi, c'était très important de partir de leurs préoccupations. Ben, j'ai toujours entendu que quand même ça les préoccupait, le fait d'être détenu. Encore plus quand ils sont pas demandeurs. Parce que quand même, en tout cas, au début, quand même, c'est jamais simple pour eux d'arriver en prison. Et là, ils reconnaissaient toujours qu'il y avait quand même quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Parler de l'enfance, des parents, des problèmes familiaux, tout ça, moi, ça me paraissait pas du tout opportun de l'aborder en début de prise en charge, puisque les adolescents comprenaient pas du tout le lien. Enfin, mais ça, c'est pareil en milieu ouvert, hein. Et que ça leur paraît très, très intrusif. Un autre concept, moi, qui m'a beaucoup animée dans ma pratique, c'est la zone proximale de développement. C'est un concept de Vygotsky. Vygotsky, oui. En fait, c'est dans le domaine de l'apprentissage, hein, mais c'est quand même un concept qui m'a beaucoup éclairée, puisque avancer un tout petit peu, juste... à la mesure de ce que l'autre peut prendre avec lui. Donc, si on Si on est trop près, on apporte finalement pas grand-chose, mais si on est trop loin, non seulement on perd l'adolescent, mais je trouve que on dessert l'accès à une prise en charge psychologique ultérieure à un moment où peut-être il serait plus près. Alors je me réfère aussi à Winnicott là qui parle de la présentation de l'objet. La présentation de l'objet pour Winnicott, c'est présenter une mise en pensée au moment où le sujet en a besoin, où il est capable de l'entendre, mais surtout de croire que cette mise en pensée, c'est sa propre création. Et ça, c'est quand même vraiment quelque chose qui me semble très important. Moi, j'avais remarqué que parler des parents, les difficultés parentales, c'était vraiment très compliqué en détention, puisque ils avaient une conscience aiguë d'avoir blessé leurs parents dans leur capacité éducative et leur narcissisme parental, qui souffraient en outre de la séparation imposée par le tiers social, et que vraiment, c'était vraiment pas le moment de travailler sur les relations parentales. C'est mon expérience, hein. Donc, après ce que j'appellerais les entretiens de suivi, alors pour les rencontres ultérieures, moi, je précisais aux surveillants qui allaient chercher l'adolescent en cellule ou dans l'autre lieu, classe, atelier, de ne pas lui demander s'il voulait voir la psychologue, puisque pour moi, c'est une question qui est trop complexe pour eux. S'ils acceptent, c'est qu'ils admettent avoir besoin, et d'autant plus en présence des autres jeunes. Mais de leur présenter la proposition en disant que c'est la psychologue qui voulait les voir. Voilà. Et ça semble vraiment simple. Mais en fait, ça leur permettait d'accéder beaucoup plus facilement aux entretiens, avec beaucoup moins d'hésitation, beaucoup moins d'ambivalence, puisque en fait, c'est pas lui qui veut rencontrer la psychologue, mais c'est la psychologue qui veut le rencontrer. C'est beaucoup plus simple pour lui. C'était pas son désir, mais celui de l'autre. Et puis, que quelqu'un ait envie de le voir, même si c'est que la psychologue, ça a toujours un côté gratifiant pour eux, particulièrement dans ce lieu. Je compte pour quelqu'un, j'exige pour quelqu'un s'est déplacé pour moi. Et devant les autres, en plus, il pouvait toujours dire qu'il avait accepté l'entretien pour ne pas décevoir, pour pas manquer de respect à la psychologue, pour répondre à la commande du juge. Enfin, autant d'échappatoires pour ne pas reconnaître que l'entretien pouvait avoir un intérêt pour lui. En revanche, quand ils étaient capables d'assumer clairement le fait d'accepter les rendez-vous, lorsqu'un travail était bien engagé, ils étaient en capacité de pouvoir expliquer aux autres adolescents détenus que ça les intéressait. Alors, un petit topo sur l'importance des actes, peut-être partout, mais en tout cas en détention, moi, ça m'a amené à des fois à réaliser des actes. Donc, pour moi, les adolescents se méfient énormément de la parole, hein, qui a été très souvent bafouée dans leur histoire de vie. Même les menaces des juges ou des travailleurs sociaux non mises à exécution, même par bienveillance, contribuent à dévaluer la parole et sa valeur, hein. Et du coup, quelquefois, les adolescents, il fallait en passer par une demande d'un acte. Par exemple, écrire un courrier, faire une photocopie. Et moi, je le faisais parce que j'interprétais cette demande comme une vérification de ma capacité à m'engager, de vérifier la concordance entre la parole et l'acte. Qui est déterminante pour prouver notre fiabilité, mais petit à petit aussi pour redonner du crédit à la parole. Pour moi, les adolescents peuvent reprendre confiance dans la parole quand ils en ont fait l'expérience de la concordance entre les actes et la parole. Alors, parfois, avec certains jeunes, il s'agissait uniquement d'établir et de maintenir une relation continue, durable, d'où les rencontres plus ou moins fréquentes, hein, puisqu'il y avait vraiment des rythmes différents, mais qui avait lieu pour tous pendant toute la durée de l'incarcération jusqu'à la sortie. Même lorsque les adolescents refusaient, hein, finalement, peu à peu, assez peu, puisque c'était devenu normal, hein, finalement, d'aller voir la psychologue, cette proposition était offerte régulièrement. Donc, afin de leur montrer qu'ils existaient toujours pour la psychologue et qu'ils continuaient à se soucier d'eux, de leur devenir, et qu'aucune rétorsion n'existait du fait d'un refus ou même de multiples refus antérieurs. Donc, l'idée était, bien sûr, de leur faire vivre une expérience relationnelle autre, celle où ils pouvaient exister tels qu'ils étaient, avec leurs compétences, leurs faiblesses et surtout l'inconditionnalité. Alors, le lien, je le maintenais par différents biais. Parfois, c'était par du courrier. Donc, quand, par exemple, la rencontre ne pouvait pas avoir lieu parce que, je sais pas, il y avait une alarme, parce qu'il y avait un imprévu ou même que l'adolescent refusait. À ce moment-là, je leur écrivais. Ça me semblait vraiment très important de dire que j'étais toujours là, que eux, ils étaient toujours là dans ma tête, ils comptaient toujours, que cette relation, elle continuait d'exister, que le travail engagé continuait d'exister. Que l'absence physique, elle n'était pas synonyme d'absence psychique et de rupture. Ça fait référence hein, aux multiples expériences de discontinuité de la présence de l'autre, qui a mis à mal chez eux qui a mis à mal le sentiment de sécurité interne et de sécurité relationnelle. Alors, je mettais aussi en place des entretiens de pré-libération, enfin avant sortie, quoi. Puisqu'en effet, on en a un petit peu parlé hier. Hein, la sortie, elle fait souvent l'objet en détention hein, d'une forme d'idéalisation, comme si magiquement elle permettrait de résoudre tous les problèmes. Et évidemment, plus forte a été l'idéalisation, plus douloureuse sera la désillusion. Il me semblait donc important d'aider l'adolescent à anticiper, à se projeter dans la réalité de la sortie, de la retrouvaille avec son environnement, ce qui était bon, mais aussi ce qui était moins. Donc vraiment, ça, c'était vraiment un travail important pour moi, notamment de réenvisager les difficultés qu'il avait conduites en détention et comment, aujourd'hui, il pourrait les gérer. Après, pour moi, c'était vraiment un travail autour de la séparation, hein, puisque on sait que nos adolescents, ils ont tous eu à pâtir d'abandon, de rupture. Je ne voulais absolument pas que notre séparation soit une rupture, qu'ils sont très vulnérables aux souffrances d'abandon et de séparation. Donc, pour moi, il s'agissait vraiment de travailler sur cette séparation. Et puis aussi de travailler sur le départ d'un lieu qui, au-delà d'une contention, a pu aussi parfois permettre une forme de contenance psychique et parfois une forme de sécurité pour les plus en difficulté, comme on l'a évoqué hier. Hein. Alors oui, j'ai un petit mot sur les entretiens au quartier disciplinaire. Moi, j'allais tous les voir. Ça m'apparaissait très, très important d'aller voir dans ce lieu. Puisque leur offrir un espace de parole dans ce lieu, ça me semblait vraiment encore plus déterminant, parce que là, l'isolement, il est encore bien pire, il y a une privation relationnelle, une restriction sensorielle, il y a une vacuité qui est d'autant plus délétère que leur espace interne est pauvre. Hein, donc, voilà. Moi, je me suis vraiment battue avec l'administration pénitentiaire, non seulement pour pouvoir les voir au quartier disciplinaire, mais pour avoir des conditions d'accueil dignes, puisque ben là, le fait d'avoir travaillé chez les majeurs, je connaissais quand même les règles, les règlements, hein, parce qu'au début, on me disait, ben non, non, ben vous le voyez à travers la grille, j'ai souvent eu à m'affronter hein, à l'administration pénitentiaire, pas toujours, hein, j'ai aussi très bien travaillé avec eux par moments, mais il y a vraiment des moments où j'ai pas lâché le morceau, je me suis vraiment battue parce que une fois je me suis retrouvée avant que je me batte, hein, à recevoir une jeune fille assise par terre au quartier disciplinaire et moi assise par terre de l'autre côté de la grille. Et là, j'ai dit non, là, ça va trop loin, je peux pas accepter, j'écrirai, mais je n'accepte plus ça, c'est terminé. Voilà, bon, ça a été des fois un peu des bras de fer. Hein. J'en suis pas. Les conditions d'accueil, j'ai réclamé un bureau, évidemment, parce que ça me semblait très important d'avoir un espace. J'ai vraiment insisté pour soigner le cadre, l'espace d'accueil. Donc, j'avais demandé des fauteuils avec dossiers, accoudoirs, des sièges confortables dans lesquels, pour moi, les adolescents pouvaient se laisser aller, se détendre, lâcher prise, se reposer, régresser. Tout ça, pour moi, c'était très important. Et en fait, dès l'entrée dans le bureau, en fait, dans la salle d'entretien, les adolescents saisissaient implicitement qu'il s'agissait d'un espace autre, différent du reste de la détention, et dans lequel une expérience autre aurait lieu. Un espace donc où on se souciait d'eux, où on prenait soin, et où finalement aucune action précise n'était requise de leur part, même si ceux qui voulaient un peu se poser tranquillement, ça pouvait être un petit peu ça aussi. Donc moi j'ai été formée à Lyon 2, hein, notamment par René Roussillon, qui nous expliquait à l'époque hein, que l'espace de travail du psychologue doit symboliser la symbolisation. Et moi je rajouterais que cet espace il doit aussi symboliser ce que l'on veut signifier à l'autre du travail proposé, mais aussi de la considération que l'on a pour lui. Voilà, donc pour moi ça c'est aussi important. Donc, j'ai essayé de faire de cet espace de travail, je me dépêche, je crois, un espace pour exister différemment, pour offrir aux adolescents un mode de présence à l'expérience singulière de l'incarcération, donc quelque chose de différent de ce qu'ils pouvaient mettre en place, actualisé dans d'autres lieux de la vie en détention. Donc, je leur permettais de développer, mettre à jour d'autres aspects de leur personnalité, moins connus, moins expérimentés, parfois moins assumés. Donc, pour moi, cet espace n'avait pas de fin utilitaire, dans le sens où l'adolescent, enfin, j'ai toujours insisté pour qu'il n'y ait rien à gagner, pas de remise de peine, pas de je sais pas quoi. Il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de rapport. Le gain du travail psychologique, c'était juste, mieux se connaître, accepter d'accueillir et penser ce qui se passait en lui dans ce lieu singulier qu'est la prison, et par extension à l'extérieur, en prenant la mesure de cette expérience sans la banaliser et en tentant de lui construire du sens. Donc pour moi, c'était ni estimation de niveau, diagnostic, expertise, tout ça qui sont pour moi des modalités d'évaluation, de mesures quantitatives, qualitatives, de sa personnalité qui souvent résonne en forme de peur de l'échec. C'est le seul jugement que parfois il pouvait redouter, ce qu'il pressente souvent intuitivement et à juste titre, c'est leur propre jugement qui progressivement peut s'édifier à travers l'élaboration d'une forme de culpabilité. Pour moi, il y avait rien à prouver devant la psychologue. Donc, ils pouvaient délaisser une façade, les mécanismes de défense, abandonner une carapace de dur de caïd hein, qui n'avait pas d'intérêt dans ce lieu. Puisque pour moi, dans cette phase de construction identitaire, lorsqu'ils recourent trop souvent aux mécanismes de défense, ils peuvent eux-mêmes s'y perdre dans leur construction identitaire. Voilà. Donc, non, j'en suis toujours pas là. Ma posture, alors bon, je vais aller peut-être un peu vite parce que ça, je pense qu'on s'y retrouve tous. Hein. Donc moi, j'ai tenté de situer ma posture dans l'accueil, la disponibilité, la bienveillance, l'engagement relationnel. Pour moi, la neutralité, même bienveillante, est souvent interprétée comme de la froideur et de l'indifférence par ses adolescents. Et là, je me suis aussi appuyée sur Pierre Caméraire, qui a nommé, lui, la sollicitude pleine d'amour, la disposition dans laquelle il recevait ses patients qui n'ont souvent que trop connu la cruauté depuis leur prime enfance. La neutralité, pour moi, elle peut en plus se refléter ou tenter de dissimuler notre appréhension de professionnel face à ces adolescents, dont la première approche est parfois souvent défiante. Et le premier jugement qu'ils vont porter sur nous, c'est comment est-ce qu'il va réagir à mon agressivité? Est-ce qu'il va y avoir punition? Est-ce qu'il va me laisser tomber? Pour moi, donc, il s'agit pour eux de tester notre capacité d'accueillir leur destructivité, de lui résister et de la transformer en la détoxifiant. Là, je m'appuie sur Roussillon. Donc, mon accueil aussi, c'était vraiment une politesse extrême hein, qui les surprenait dans ce monde carcéral où ils étaient instantanément tutoyés, appelés uniquement par leur patronyme. Donc, après la garde à vue, après les entretiens, par exemple, par les gradés où ils étaient debout, alors que le gradé était assis, avec d'autres surveillants tous assis et lui debout. Donc moi, quand je les accueillais, je leur disais asseyez-vous, je vous en prie. Alors là, déjà, il y avait vraiment une surprise pour eux. Et j'essayais vraiment d'introduire la différenciation par un traitement autre. D'autant plus que souvent, on est obligé d'utiliser, hein, comme ça a été dit hier, les mêmes espaces, les mêmes bureaux que le surveillant ou une salle de classe, ou je sais pas où. Donc, voilà, il peut y avoir de l'indifférenciation au niveau des lieux. Et du coup, j'essaie vraiment de marquer ma différence par un autre accueil. En plus, moi, je considère que si on estime qu'ils sont assez grands pour devoir répondre de leurs actes, être incarcérés, ben, ils sont aussi assez grands pour être, vous voyez, traités avec respect, le même qu'on accorde à des adultes. Et quelque chose que je voudrais rajouter, c'est que là aussi, hein, c'est pas seulement en détention, ces adolescents qui fonctionnent sur un registre peu mentalisé, ils ont développé une capacité de nous sentir, de sentir notre bienveillance, notre disponibilité, notre authenticité. Dès l'enfance, ils ont appris à décrypter l'état interne de l'autre. Et d'abord de leurs parents, à partir de signaux infraverbaux. D'une part, parce que leurs parents eux-mêmes utilisent peu le langage symbolique, mais plutôt un langage opératoire. Et également parce que la souffrance de ceux-ci était ressentie par l'enfant avant même d'être pensée, identifiée, comprise. Là, je reprends l'expression de Jean-François Rabin, qui parle de bébé météo, qui étudient anxieusement sur le visage de leur mère la carte de ces troubles de l'humeur. C'est comme ça qu'on peut expliquer que ces adolescents, même si un jour ou plusieurs jours on est maladroit, les erreurs peuvent passer parce qu'ils sentent notre bienveillance. Voilà, un autre point que je voulais aborder, c'est que... Pour moi, donc, ce qui est fondamental, c'est que c'est un espace pour se penser et pour se séparer. Donc, pour moi, c'était un espace pour aider l'adolescent à réfléchir à ce qu'il pouvait faire de ce temps d'incarcération et par extension de sa vie, à reprendre en main vie actuelle et l'avenir. Ce temps d'arrêt peut être vécu très différemment, hein, on l'a vu hier par les adolescents. À l'extrême, certains décident de se mettre comme en mode survie, en mode avion. C'est-à-dire qu'ils refusaient que leur psychisme vive en détention. Hein. Ils disaient d'ailleurs « seul mon corps vit ici ». Ils demandaient des médicaments psychotropes pour ne pas penser. Certains se réfugiaient dans l'hypersomnie, alors que d'autres vont profiter de ce temps d'arrêt pour penser leur existence, faire une sorte de bilan, essayer d'envisager de vivre différemment. Donc pour ces derniers, l'accompagnement psychologique est soutenant, hein, puisque s'aventurer dans la pensée seule, c'est difficile. C'est se remémorer des expériences douloureuses et faire des constats décevants concernant leurs premières initiatives personnelles. Donc il leur faut beaucoup de courage, hein, pour s'essayer à réussir dans la créativité, alors que par défaut d'assises narcissiques suffisantes, ils ont surtout réussi, enfin surtout ils ont entre autres réussi dans la destructivité, là je fais référence à Philippe Jamet, préférant l'échec choisi à l'échec subi. Et donc, pour moi, ce regard du psychologue qui croit en leur potentiel, c'est un regard qui leur a manqué dans leur prime enfance. Donc, pour moi, la question de l'attribution d'un sens à la question personnelle, leur expérience personnelle et singulière de la détention se pose, et elle est en écho avec celle de leur projet de vie qu'ils vont avoir à opérer. Donc, pour moi, j'essaie de les aider à prendre conscience que dès l'incarcération et paradoxalement dans ce lieu d'enfermement, ils peuvent être libres du choix du sens qu'ils vont accorder à cette expérience. Voilà, je vais terminer dans les temps. Alors, ça c'est vraiment une hypothèse qui m'a traversée beaucoup en détention, mais... Voilà, qui vient de ma petite tête et elle vaut ce qu'elle vaut. Hein, voilà. Ce que je peux développer, c'est que les adolescents incarcérés hein, connaissent en effet un fonctionnement à expression psychopathique, mais ce sont également des adolescents en pleine construction psychique. Et comment faire pour que l'agir délinquant, avatar de la maturation psychique pour moi, puisse en effet déboucher sur une reprise ou un démarrage du processus adolescent, à quelles conditions l'expérience de séparation-individuation dont les ratages s'expriment par la délinquance pourra-t-elle trouver à se réaliser dans l'expérience d'une séparation forcée, peut-être inconsciemment cherchée à travers l'incarcération. Autrement dit, moi j'ai fait l'hypothèse que lorsque le tiers paternel n'a pu jouer son rôle différenciateur et introducteur de la loi, autrement dit, lorsque la séparation-individuation n'a pu s'opérer sereinement, certains adolescents, assez nombreux parmi notre public, semblent être passés à l'acte afin que le tiers social se charge de cette fonction tiers séparatrice. Ils ne s'éloignent pas eux-mêmes spontanément afin de ne pas blesser un ou des parents trop vulnérables, mais ils contraignent la société à les mettre à distance afin de pouvoir s'autoriser à se séparer. Et ainsi, il pourrait être allé inconsciemment chercher l'incarcération afin de pouvoir s'autonomiser. Alors bien sûr, hein, cette évolution, elle ne se fera pas dans tous les cas, et certainement pas du seul fait de l'incarcération. Pour moi, cette maturation, elle ne peut s'opérer qu'à des différentes conditions, dont celle que l'adolescent soit justement guidé, aidé, soutenu, accompagné psychiquement dans la mise en sens de cette expérience, fonction pour moi du psychologue. Voilà.
Merci beaucoup Chantal. Au début j'ai cru que tu avais fait un lapsus, j'ai adoré la phrase « c'est les abandonner que d'attendre une demande ». Et après je me suis dit non, ça ne doit pas être un lapsus, je la trouve très éclairante cette phrase. Je te remercie. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des remarques?
Alors, je sais que c'était pas exactement l'objet de votre présentation, mais comme vous avez dit au départ que vous aviez été pas très bien accueilli par l'unité de soins, je me demandais quand même si vous aviez quelques éléments à donner sur comment votre pratique s'était articulée avec la leur.
Alors,
très rapidement parce qu'on risque d'y revenir dans la table ronde.
Oui, oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, assez vite, j'ai posé que je voyais tous les adolescents et que j'essayais justement de les aider à construire une demande et que pour moi, il y a un moment où ils iraient vers le service de soins, qu'on était vraiment pour moi complémentaires. Mais là encore, je dirais comme le travail du psychologue PJJ partout, hein, où on va aider à construire une demande, à élaborer une demande, à la formaliser. Donc pour moi, on n'était pas en concurrence, mais en complémentarité. Je ne sais pas si ça répond.
Merci beaucoup, c'était hyper intéressant, mais je n'en doutais pas. oui, juste une petite remarque par rapport à la perception fine qu'ils ont des états internes de l'autre. Moi, je pense qu'il s'agit vraiment d'un mécanisme de survie à la base. Hein. Je pense que c'est souvent des jeunes qui ont vécu des discontinuités et en fait, ils ont développé, je pense, cette capacité-là pour pouvoir... s'adapter et survivre.
D'accord.
En attendant, j'avais une observation aussi pour ma part de mon expérience. J'étais essentiellement en milieu ouvert, mais j'allais quand même fréquemment en détention. Et tu parlais à un moment des premiers entretiens où tu vas directement sur l'acte. Alors qu'il y a... une espèce d'ancienne dans l'institution, c'est non, on va pas aller directement sur l'acte parce que ce serait le résumé à son acte. C'est tournable aussi, hein, tout à fait. Hein. Mais ce que j'avais vu, enfin, quand tu dis aller là-dessus dès les premiers entretiens, enfin, moi, ce que j'observais, c'est que c'était beaucoup plus facile de parler de l'acte quand ils étaient en détention qu'en milieu ouvert. Quand ils étaient en milieu ouvert, soit ils étaient dans le déni, soit ils disaient, soit, enfin, ils trouvaient plein d'esquives, en fait, pour ne pas en parler. Ce qui n'était plus le cas en détention. C'est comme si, bon, l'acte est acté, quelque part, et maintenant on peut en parler. Enfin, je ne sais pas si tu as ce ressenti aussi.
Oui. Et puis, de toute manière, moi, ça faisait partie de ce matériel dont je dispose dès l'arrivée. Et j'aimais mieux qu'on le pose. Voilà, après, ils en disaient ce qu'ils en voulaient, hein, mais voilà, je leur disais, je sais que vous êtes là, je les vous voyais en détention. Voilà, c'est ça.
Oui.
Ouais. Voilà, voilà.
Non, mais ils sont là pour ça, de toute manière. Donc, c'est le symptôme de base, hein, si on peut appeler ça un symptôme, ça. Qui fait qu'on les rencontre. Donc, ce serait bête de ne pas en parler. Mais donc, en milieu... Enfin, oui, ils en parlent plus facilement des tensions, de mon expérience. Alors qu'en milieu... Non, on pouvait esquiver, ou des fois, ou non, ça crée des grosses tensions. Enfin, je me suis très mal débrouillé, parfois, je le reconnais. Hein. Et en détention, je voyais ce décalage.
Mais... Oui. C'est ça.
Et je trouve qu'en hébergement en foyer, c'est la même chose, en fait. Je suis épatée depuis hier des ponts, en fait, qui sont de nos pratiques, qui peuvent être effectivement en hébergement avec des primos qui arrivent. On est dans les mêmes choses, en fait, dans les mêmes choses, pas tout à fait, il y a des variantes, mais dans la pratique, il y a beaucoup de choses similaires.
Oui, ce qui amène à penser que cette pratique en détention, elle est différente et pas si différente au final. Voilà.
Oui, vous avez évoqué une sorte d'aménagement de votre pratique par rapport au moment où ils sont en QD. Est-ce que vous pourriez développer un peu qu'est-ce que vous avez pu aménager et demander, enfin, que la pénitentiaire a pu vous accorder pour faire en sorte d'avoir des entretiens peut-être plus satisfaisants pour vous?
En fait, je connaissais les textes puisque je venais de la pénitentiaire pendant 13 ans et je savais que en détention majeure, on a droit à un bureau pour recevoir. Pour recevoir les personnes quand elles sont gardées disciplinaires.
Ça veut dire qu'il les extrait de la cellule du
non,
QD.
Dans le QD, il doit y avoir un bureau d'entretien.
Okay.
Normalement, dans tous les quartiers disciplinaires, il y a un bureau d'entretien. Et j'exigeais, moi, d'avoir d'avoir accès à ce bureau. Voilà.
D'accord.
Parce que c'est, enfin, je sais pas, je connais pas, je sais pas le texte, mais c'est dans les textes, hein, c'est, il doit y avoir un espace, d'entretien dans tous les quartiers disciplinaires, et, bah, normalement, les professionnels ont droit de recevoir les personnes dans ces conditions, dignes.
D'accord. Et, les CPROU, peut-être aussi, hein? Parce que du coup,
oui.
Moi dans ma pratique, ça fait un trou, quoi. Ça fait un vide. Hein. Moi, je vais pas les voir en QD, je vais pas les voir en CPROU, et bah ça me pose question. Il y a comme une sorte de. Oui, la CPROU, c'est une cellule de sécurisation, on va dire, en cas de d'idéation suicidaire ou de tentative de suicide pour sécuriser les détenus. Et voilà, c'est une cellule qui est nue. Moi, j'ai jamais vu, du coup, parce que j'y suis jamais allée. Et on leur retire leurs vêtements. Ils sont en pyjama, en papier, tout ça. Et c'est une expérience. Du coup, moi, j'en parle avec les mineurs après que ça leur soit arrivé, qui est aussi relativement traumatisante. Mmh. Donc, je me suis demandé si le psychologue avait pas sa place aussi dans ces moments-là. Question que j'ai pas tranchée pour le moment.
Donc, c'est CPROU, en fait. Hein. C'est cellule de protection d'urgence, l'acronyme. Moi, en fait, j'ai essayé de voir les jeunes ailleurs, mais j'ai pu les voir aussi en CPROU parce que comme ils sont en pyjama papier, s'ils doivent passer devant les autres en pyjama papier, en plus la plupart du temps ça leur va pas du tout, c'est du 52 ou je sais pas quoi, donc ils sont obligés de tenir le pantalon papier. Il y avait vraiment quelque chose de, je trouve, très dégradant pour eux. Et vraiment, du coup, je préférais aller les voir dans la cellule de protection d'urgence. En fait, j'ai beaucoup adapté, mais moi, j'allais partout. Hein. Alors, peut-être à l'époque, c'est vrai, hein, j'ai peut-être bénéficié d'un temps où, bah, comme on m'avait dit, faites comme vous voulez, j'ai eu une certaine liberté, hein, mais je pouvais aller...
Je comprends dans ce que vous dites qu'il faut aussi s'autoriser de soi-même, quoi.
Ben voilà, moi je. En fait, c'était surtout si on me disait le jeune va pas bien. En fait, c'est la seule chose qui me guidait, moi. Où, comment, voilà. C'est. J'essayais d'aller le rencontrer. Voilà.
Merci.
De rien.